Vous écoutez
RMC. RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
11h05, nous sommes de retour dans les grandes gueules du sport, ici en direct de l'Alpe d'Huez, à l'occasion des RMC Sport Games, en direct à la radio. Mais nous sommes également sur la chaîne YouTube d'RMC Sport, si vous voulez évidemment voir notre studio ici à l'hôtel des Grandes Rousses. Il neige énormément ici sur l'Alpe d'Huez, donc la saison s'annonce bonne, évidemment. Les grandes gueules du sport ce matin, Christophe Cessieux, Sarah Pitkowski, Philippe Saint-André et un ancien de la bande nous rejoint, car nous allons parler basket dans quelques instants. C'est Stéphane Brun. Salut Stéphane.
Salut Jean-Christophe, salut tout le monde, ça va?
Je précise, tout va très bien. Un petit peu de promotion, c'est important aussi dans cette émission. À partir de 13h, tu seras là pour Stephen Brunch en direct de l'Alpe d'Huez.
Exactement, avec Nicolas Jamin à la présentation, Jimmy Brown, Arthur Robert, voilà la fine équipe.
Vous allez parler de quoi?
On fait exactement le même conduit que les GG ce matin, mais en un peu meilleur.
Bah, si vous voulez rediffuser. Pourquoi vous rediffusez pas?
Exactement. Non, mais.
Il faut inviter Christophe Cessieux, hein, si tu veux être aussi bon que.
J'ai entendu un peu énervé, Christophe.
Pas du tout.
Pas mon genre.
Tu montes un peu dans les tours, non?
Oh, c'est rare.
Si, si.
Oh, peut-être sur un débat Mbappé, mais parce que c'est la première fois qu'on en faisait un, peut-être. C'était tout à l'heure à partir de 9h.
Il se disait, il faut en faire plus souvent.
Et il a bouffé de la raclette frelatée, j'y sais, pour nous proposer des débats pareils, quoi. C'est pas possible.
Je vous confirme, il en a mangé beaucoup, j'étais à côté de lui.
Le débat est arrivé à 23h45,
Et c'est comme ça qu'on prépare les émissions, c'est en échangeant avec les uns et les autres.
Au bout de trois bouteilles de Gavé de Savoie,
j'ai vite derrière un tapé.
Dans quelques instants, donc la sensation, Paris Basketball, leader de l'Euroleague, on en parle dans les grandes gueules du sport. 11h30, nous recevrons deux championnes avec nous à l'Alpe d'Huez durant tout le week-end, qui ont décidé d'arrêter leur carrière après les Jeux Olympiques de Paris 2024. La nageuse Charlotte Bonnet et la gymnaste Marine Boyer, elles seront avec nous dans le studio RMC ici à l'Alpe d'Huez. On va débuter cette nouvelle heure avec ce proverbe français. Pardonnez-moi. Bon, un petit peu de fatigue aussi dans cette émission, ça peut aussi m'arriver, les
Vas-y,
copains.
Vas-y, c'est un proverbe doux alors. Afrique.
Non, il n'y a pas de proverbe du tout.
Bon, vu cette cagade, je suis obligé de vous le dire. Je regarde mes textes et je me dis, ah non, ça c'était des textes d'hier. Donc, je n'ai rien pour annoncer la prod qui va venir. Alors vous savez quoi? Je vais la faire
à l'ancienne.
À l'ancienne, assez classique. Tout de suite, on va parler de basket.
Les grandes gueules du sport passent la seconde.
Et Evan Fournier va au poignet, 13-0. Pour l'Olympiakos, temps mort pour Thiago Splitter. Il vient de prendre un blitz terrible, 18-0 pour l'Olympiakos, c'est pas possible. L'Olympiakos qui est revenu, qui vient de passer 20 points. Le scénario de folie.
Short, ballon vite avancé sur Mao Delon,
et c'est le but qui pouvait arriver. Mao Delon, il reste 10 secondes à peine. Et Evan Fournier qui perd le ballon. Paris qui va gagner. Nadir Ishtar qui prend pas le risque.
Allez.
C'est Paris qui s'impose, la 10e victoire de suite.
Les commentaires de nos amis de Squeak, encore un exploit. Mais où va s'arrêter le Paris Basketball? Vendredi soir, les Parisiens ont signé, vous l'avez entendu, un exploit majuscule au Pirée sur le parquet de l'Olympiakos, enchaînant une 10e victoire de suite en Euroleague. Le début de saison est phénoménal. 2e de Betclic Elite, 1er en Euroleague. Et ce soir, le Paris Basketball accueille dans sa nouvelle salle l'autre géant du championnat de France, Monaco, pour la première fois depuis très longtemps, le basket français de club. Et sur le devant de la scène médiatique, en tout cas, la musique qui fout les jetons. Et cette question, les exploits de Paris, est-ce un tournant pour le basket français? Oui ou non, Sarah Pitkowski?
Ah oui.
C'est oui. Christophe Cessieux?
Je pense, mais il faut que les dirigeants du basket français soient à la hauteur des exploits des clubs français.
Ok, donc c'est mesuré pour notre ami Christophe. Philippe Saint-André?
C'est oui.
C'est oui. Stéphane Brun?
C'est oui.
C'est oui aussi, avec un cérémonial qui te va bien. Avant de débattre, on va retrouver notre spécialiste basket, notre commentateur sur RMC Sport, Arnaud Valadon. Salut Arnaud.
Bonjour à tous.
Un Valadon peut en cacher un autre.
Oui, Jean-Charles Valadon qui est avec nous, l'archer, c'est ce que tu veux nous dire. Ici à l'Alpe d'Huez, il n'est pas à l'Alpe d'Huez, notre ami Arnaud Valadon, mais il veut nous parler du Paris Basketball, Arnaud, qui est le nouveau phénomène du basket français.
C'est vraiment le club tendance en ce moment à Paris. Né en 2018, il atteint déjà des sommets. Premier élément d'explication, l'ambition de voir grand et d'imposer le club comme une marque forte avec la vision américaine des deux propriétaires. Les explications du directeur marketing, Julien Jalouzet.
Ce qu'a toujours dit le président David Kahn, on veut être la deuxième marque de sport à Paris, derrière le Paris Saint-Germain, qui est évidemment un très grand frère, hein, qui est très loin. Mais on veut prendre cette deuxième place parce qu'on est le basketball, qui est un sport qui plaît beaucoup, qui a 12 millions d'habitants plutôt jeunes dans le Grand Paris. On a un coup à jouer et c'est ce qui est en train de se passer, quoi.
Le sportif fonctionne avec des victoires, mais aussi un basket très spectaculaire. Et il y a enfin une salle digne de ce nom, finie Coubertin ou Carpentier. Là, c'est l'Adidas Arena, porte de la Chapelle, 8000 places, construite pour les Jeux et dont le Paris Basketball est le club résident.
Le cœur du produit, c'est j'incite tous les gens à venir voir un match à l'Adidas Arena, qu'ils soient fans de basket ou pas, parce que pendant deux heures, je suis sûr qu'ils vont passer un bon moment. Et ça, il y a peu de gens qui peuvent le dire, en fait, je pense. Et cette année, ça vient à nous. On a eu là Omar Sy, on a un athlète olympique par match, les gens adorent ça. Avec des profils très différents, des joueurs de football, des Zach Nani, Malik Bentala, Omar Sy, Alice Belaïdi, donc plein de profils hyper différents, ouais.
Des VIP, mais pas que, il y a les fidèles. Le COP Parisi est présent depuis le début. Redouane, il est un membre historique et il explique pourquoi il est séduit.
On le répète à chaque fois, mais c'est un club qui représente enfin la ville de Paris. Tu peux venir de n'importe quel environnement de Paris, de banlieue ou de Paris même, toute classe sociale confondue. Et c'est ça en fait, c'est pour ça que le projet marche, clairement.
Et la différence majeure, elle est bien là, avoir su comprendre que le public hétéroclite parisien et le faire venir, s'adresser et ne plus s'adresser à une niche, c'est l'avis de Christophe Denis, entraîneur de basket qui a connu les différentes aventures, le Paris Basket Racing, champion 97 et qui a révélé Tony Parker, puis ensuite le Paris Levallois.
Le Paris Basket Racing, début des années 2000, on était quand même vers un public plus d'initiés. C'était Coubertin, c'était 3500 spectateurs. Paris Basketball fait vraiment la différence entre la performance sportive et la performance sociale. Et je pense qu'il y a au moins autant d'énergie employée au sein du club pour satisfaire des gens qui ne comprennent rien au basket. Tire de l'Adidas Arena en ayant pris autant de plaisir que quelqu'un qui a vu jouer.
Ne plus être une niche, on l'a bien compris. Merci beaucoup Arnaud Valadon, tu restes avec nous pour ce débat. Ce qui est en train de se passer là autour du Paris Basketball, est-ce un tournant pour le basket français? On en parle dans les grandes gueules du sport. On vous attend évidemment au 32-16. Chers auditeurs, c'est oui, il y a une étincelle. Tu veux nous en parler, Sarah Pitkowski, pourquoi oui?
Il y a une étincelle, mais en fait, si on regarde de plus près, moi je suis prête à me lancer en disant que le basket français est peut-être la deuxième nation mondiale de ce sport. On se souvient, il y a moins de 5 mois, on est quand même 3 fois vice-champion olympique de basket, avec les hommes, avec les femmes, avec le 3-3. On a un sport qui est aujourd'hui à plus de 700 000 licenciés. Je crois qu'on n'est pas loin du troisième sport français. On a un joueur qui est en NBA, qui est voué peut-être à être le meilleur joueur du monde, Wembanyama. On a deux, je vais pas me tromper, Steve, mais les deux, le classement du premier et du deuxième de la prochaine draft.
Zachary Xavier et Olivier Sarr,
quand ils sont deux Français. Oui. Donc, en fait, t'as envie de te dire, mais ce qui est en train de réaliser l'exploit que réalise le Paris Basket, c'est à la juste mesure de ce que vaut le basket français. Monaco, même quatrième aujourd'hui, Monaco a toujours été en Euroleague quand même très bien placé. Donc ça me paraît tellement normal. Mais
le basket de club disparu.
C'est une incompréhension. Il n'a pas disparu, il n'est pas diffusé. Mais les salles, elles sont pleines. Le championnat attire beaucoup de monde. Donc j'ai envie de te dire, il y a d'excellents joueurs. Mais pourquoi on le voit pas? Et pourquoi on le voit pas plus? Ça c'est une grande question. C'est une grande interrogation.
Mais Christophe, c'est pour ça que effectivement tous les éléments sont en place.
Tous les voyants sont au vert, en fait.
Retrouve sa place. Rappelez-vous, Steve a pas connu ça parce qu'il était trop petit à l'époque, hein. Il a été petit un jour aussi. Le basket dans les années 80, tous les samedis après-midi.
Oui, sur Antenne 2.
C'était Antenne 2. T'avais quand même Beau, Limoges qui se tirait la bourre. C'était le sport numéro 2. Derrière le foot, le basket vraiment était largement devant le rugby. Je sais pas ce qui s'est passé, mais ils ont laissé passer l'opportunité. Ils sont laissés passer devant par le rugby. Et aujourd'hui, alors que tous les éléments sont en place, c'est-à-dire que un club dans une capitale, une salle magnifique, des joueurs incroyables qui sont pas en plus les superstars, mais qui justement arrivent à mordre les mollets des plus grands. Tout est en place, mais c'est vrai que c'est encore assez invisible. Et c'est pour ça que je disais qu'il faut que les dirigeants soient à la hauteur de ce qui se passe. Je pense que les dirigeants du Paris Basket le sont. Maintenant, il faudrait quand même qu'on arrive, que les gens arrivent à voir le basket. Et c'est un peu comme le foot aujourd'hui qui s'est invisibilisé. Et le basket l'est depuis trop longtemps. Mis à part évidemment la NBA et tout ça, mais le championnat de France ou l'Euroleague, alors on les voit sur la plateforme, tu vas pouvoir en parler, Steve. Mais pour, je pense, redevenir un grand club, un grand sport en France, il faut le montrer et que les gens le voient.
Il faut le montrer et pas juste regarder sur les réseaux sociaux les highlights de la NBA et de Victor Wembanyama. Le basket en France existe également et à travers ses exploits de Paris, est-ce que là il y a un tournant à aller prendre là ? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'il faut faire pour justement capitaliser dessus, Stephen ?
Déjà, ce qui est important, c'est que c'est Paris. La ville Paris, déjà, c'est une répercussion et des secousses plus importantes que Monaco. Parce que Monaco a fait des résultats exceptionnels. Ils sont allés au Final Four en Euroleague. Ça faisait je sais pas combien d'années qu'un club français n'était pas allé au Final Four. Mais ça passionne moins les gens que la capitale Paris. Déjà, c'était une énorme anomalie qu'à Paris, il n'y ait pas un grand club de basket, alors que toutes les autres grandes capitales européennes en ont un, deux, voire trois. Maintenant, il y a un problème dans mon sport. C'est qu'il y a une ligue qui vampirise beaucoup de choses, qui s'appelle la NBA, et qui captive un public de tout âge. Et ce public-là a du mal.
Et peu importe d'où il vient, finalement.
Oui, peu importe d'où il vient. Et ce public-là a du mal à se dire, il y a un championnat de France, ça fait un peu ringard pour eux. Le championnat de France, aller voir Chalon, aller voir Chalon-sur-Saône, aller voir Cholet, aller voir Le Mans, c'est ringard pour eux. Ce qu'est en train de faire Paris Basketball, c'est d'enlever ce côté ringard au basket français.
Parce qu'il y a les paillettes de la capitale.
Il y a les paillettes de la capitale, il y a cette salle qui est flambante neuve, qui est exceptionnelle. Ouais. Et surtout, il y a deux dirigeants, notamment David Kahn, qui est un ancien dirigeant de NBA, qui a ramené ce modèle-là dans la salle de Adidas Arena. C'est-à-dire qu'on vient pas uniquement pour voir le match de basket. Le match de basket, c'est la pièce rapportée. Tout ce qui se passe autour. Ils ont su intégrer la culture urbaine de Paris Basketball. Et je vois un public avec une moyenne d'âge bien plus jeune que dans toutes les autres salles du basket français. Et ça, c'est important. Mais vous avez résumé, vous avez mis le point là où c'est le plus important pour mon sport, c'est la diffusion, l'accessibilité à plus de monde. Il y a des plateformes qui font du très bon travail, mais ça ne suffit pas. Ça reste une petite niche de passionnés qui vont aller acheter, qui vont aller regarder ces matchs-là. Moi, j'ai envie que Paris Basketball, Monaco et même la Zélande Euroleague soient accessibles à des gens qui aiment le basket, qui ont juste besoin pour leur télécommande et de mettre une chaîne. Et ce basket de club, je suis désolé, mais dans les rédacs, que ce soit RMC ou ailleurs, ça n'intéresse personne. Ça n'intéresse personne. Quand je veux faire un truc de basket, un peu moins maintenant, parce qu'il y a des Français en NBA, on en parle un peu plus, mais très longtemps, on se moquait du basket de club, de Boulazac, ça fait rire tout le monde, mais c'était ringard parce que ça n'intéressait pas le
public. Oui, mais là, il se passe quelque chose avec Paris.
Ça a longtemps été un sport de sous-préfecture.
Mais ça l'est encore.
Que le rugby a été aussi avant, avant de se développer dans les grandes villes.
C'est le deuxième sport co en France.
Mais oui.
Aujourd'hui, t'as quand même Lyon et Paris, qui sont deux des trois plus grandes villes de France, qui ont un club qui compte. Et effectivement, pour attirer le grand public et déringardiser le truc, effectivement, il faut que ce soit des grandes villes qui acquièrent un grand club et qui soient performants. Ça, c'est le rugby est passé par là.
Oui.
Mais je suis pas sûr que
tu peux voir qu'ils sont ambitieux. Ils disent on veut être la deuxième place à Paris. Donc
après le PSG. Ouais.
On peut voir que le Stade français peut être inquiet parce que déjà il y a une nouvelle salle et ça c'était important et un club parisien avait besoin d'une belle salle.
Mais d'une belle salle et elle est située à un endroit particulier. Oui. Elle n'est pas là où est le Stade français, le PSG, le fameux 16e arrondissement.
Et de la banlieue, c'est important,
exactement.
Ça
la salle, elle est dans un endroit où effectivement elle peut réunir un autre type de population.
Oui, mais elle est dans Paris et c'est important. Aussi. Deuxièmement, ils ont des résultats parce qu'après il faut avoir des résultats.
À Paris, si tu gagnes pas, tu dégages.
Après, ce qui est sûr, c'est que visibilité, et puis Stéphane, tu en as parlé, les meilleurs joueurs, ils vont en NBA. Moi, j'ai un fils qui a 22 ans, qui a joué au basket. Ce qui l'intéresse, c'est l'NBA. Et ça, c'est vrai que c'est un vrai problème, et il faut que les dirigeants du basket arrivent à mettre le basket sur des chaînes publiques.
Mais est-ce que c'est la responsabilité des dirigeants aujourd'hui? Il faut qu'il y ait aussi un groupe média qui prenne le pari, parce que des groupes de médias qui ont pris des paris sur le biathlon, ça c'est fait. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu veux que les clubs fassent de plus, si ce n'est qu'il y a personne qui veut parier sur le championnat?
C'est plutôt vous avez une ligue professionnelle.
Mais oui.
Donc les clubs travaillent mieux, essayent de se moderniser, il y a aucun problème. Maintenant, je veux bien que les dirigeants soient pas forcément tout à fait responsables, mais quand vous faites 6 diffuseurs en 15 ans, c'est pas forcément que des bons choix non plus. Déjà, vous perdez votre public, même si vous avez un diffuseur un peu payant et tout ça, mais ça fait 10 ans que vous restez dessus, vous pouvez fidéliser un plus grand nombre de personnes.
Les mêmes problèmes qu'au foot.
Voilà, mais là, à force de changer, tout se dilue, en fait, dans le problème de diffusion télé. Maintenant, Philippe a raison, c'est que nos plus grands joueurs français ne jouent pas ici. Ils sont en NBA. Sauf qu'aujourd'hui, notre championnat de France, avec ses trois équipes d'Euroleague, elles permettent de ramener des garçons qui étaient peut-être parfois en échec en NBA et qui viennent se relancer, qui sont internationaux. On a plus d'internationaux que par le passé qui jouent dans notre championnat de France. À une époque, il y avait zéro mec de l'équipe de France qui jouait dans le championnat de France de basket. Aujourd'hui, il y en a. Il y en a quelques-uns. Et il faut essayer d'aller accrocher le public avec ça. C'est-à-dire que ces garçons-là, vous allez les revoir aux Jeux Olympiques, aux championnats d'Europe, aux championnats du monde. Ils jouent dans notre championnat. Et il faut absolument. Ce sport, il est tellement beau. Je suis désolé. On va faire la comparaison avec le football, mais combien de fois on peut se faire chier en regardant un match de football, que ça soit à la télé ou dans un stade. Sur un match de basket, tu ne t'ennuies jamais en regardant, parce qu'il se passe toujours quelque chose. Genre, je vais te dire qu'il y a un panier toutes les 30 secondes. Mais j'ai emmené des quantités de personnes qui ne connaissaient même pas les règles du basket dans une salle, et c'était pas la Adidas Arena, c'était d'autres salles. Ils sont sortis heureux et émerveillés du spectacle et de l'ambiance qu'il y avait. Et ça, il faut capitaliser
là-dessus. Et aujourd'hui, la fin d'expérience est devenue un truc super important. Et ça, à Paris, au Paris Basket, ils le font. C'est-à-dire tu vas dans énormes, la salle, t'as un vrai spectacle.
Chose, ils ont fait une boutique ouverte 7 jours sur 7, où tu peux acheter. Ils ont changé le logo exprès pour que le logo rende un peu classe, parce qu'ils ont envie qu'il y ait des gens qui se baladent dans les rues de Paris avec des goodies et du merch Paris Basketball. Ils sont très bons là-dessus. Ils sont dans le modèle américain. Ils créent des associations. C'est très bien.
Est-ce que, à l'image de ce qu'a fait le PSG, mais un peu moins maintenant, le passage encore pour devenir encore plus grand, ce serait pas d'arriver à attirer des stars. Est-ce qu'un mec comme Fournier, qui aujourd'hui est parti en Grèce, tu pourrais l'attirer dans les filets du basket français?
Parce que pour avoir discuté avec Evan l'a dit dans une interview, il voulait venir au Paris Basketball. Le Paris Basketball a dit.
C'est un truc qui lui correspond.
Le Paris Basketball a dit non, ça nous intéresse pas.
Ah ouais.
Ils sont pas dans cette optique.
D'accord.
Pour l'instant. Ou pas encore. De faire des superstars. Parce que là, ils sont en train de former un club, former une ossature d'équipe qui a été brillante l'année dernière. Ils ont gardé à peu près la même ossature pour être bon cette année. Et ça fonctionne à merveille. Donc ils se disent, est-ce qu'on ramène une superstar? Est-ce que ça va pas chambouler tout ça?
Ouais, mais surtout aussi pour avoir des grands joueurs, il faut avoir des droits télé. C'est aussi ça.
Oui, ils ont leur propre sponsor aussi. Ils ont besoin d'être visibles. Mais là, le Paris Basket, de ce que tu nous racontes, ça va véritablement devenir, s'ils arrivent à rester au plus haut niveau comme ils le sont en Euroleague.
Sachant qu'ils n'ont pas la garantie de rester en Euroleague, ils n'ont pas une licence A en Euroleague, ils se qualifieront la semaine prochaine en Euroleague par leurs résultats sportifs de cette année.
D'accord, ils n'ont pas la franchise assurée. Mais ils vont devenir la locomotive. Ils vont devenir la véritable locomotive du basket français, du basket de club français.
La grande différence avec Monaco, c'est que Monaco, c'est du mécénat. C'est un garçon qui est multimillionnaire ou voire milliardaire.
C'est pareil que pour le foot, c'est le.
Oui, un petit peu. Donc, à tout moment, ça peut être un peu bancal. Paris Basketball s'appuie sur une structure qui est quand même plus cohérente, où tu peux voir un peu plus loin dans le futur, avec des actionnaires qui sont très puissants. Donc, oui, et surtout que l'Euroleague, pour avoir discuté plusieurs fois avec eux, ça fait 10 ans qu'ils rêvent d'un club d'Euroleague à Paris, dans la capitale. Paris les fait fantasmer, donc je ne vois pas une seule seconde Paris sortir de cette compétition. Maintenant, vous l'avez dit, à Paris, pour qu'il y ait du monde dans la salle, il faut que les résultats soient bons. Parce que s'ils sont derniers de l'Euroleague, je ne suis pas sûr que la Adidas Arena soit en
place. Exactement. Tous les facteurs sont réunis aujourd'hui. Mais Stephen, pour tous ceux qui nous écoutent, qui découvrent aussi les performances, parce qu'elles ne sont pas forcément visibles, malheureusement, du Paris Basketball, cette équipe, déjà, est-ce qu'elle a ses chances en Euroleague? Parce que maintenant qu'ils sont premiers, nous, on se prend à rêver, à se dire, est-ce qu'ils peuvent aller sur le Final Four? Ou ils sont un peu en sur-régime? Est-ce qu'on peut essayer de répondre à cette question-là après une dizaine de journées, 13 journées, je crois, d'Euroleague?
10 victoires, 3 défaites. Leader de l'Euroleague après 13 journées, c'est monumental, surtout pour un club rookie qui ne connaissait pas. La plupart de ces garçons-là découvrent cette compétition. Ils ont 19 millions de budget, et quand on connaît comment se passe en France, les charges et les impôts, ils ont une petite masse salariale par rapport aux 40 millions de l'Olympiakos Le Pirée qui sont allés battre chez eux le club d'Evan Fournier. J'ai pas envie de te dire que je les vois à Final Four, parce qu'ils ont un jeu très atypique qu'on n'a jamais vu en Europe, c'est-à-dire qu'ils jouent à 100 000 à l'heure, que les défenses ne peuvent pas s'adapter parce qu'il y a trop d'imprévus. Il y a un mec qui tire à 10 mètres au bout de 3 secondes, et il dit, attends, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et ils sont habités par une confiance hors norme. Pour l'instant, le jeu dénote avec ce qui est le jeu de Rolly, qui est plutôt bien structuré. Donc pour l'instant, ils chamboulent toutes les équipes. Maintenant, il reste encore beaucoup de matchs, on n'est même pas à la moitié. J'ai envie de voir si les grosses structures vont s'adapter, mais ils ont déjà fait la moitié du chemin. Ils sont quasiment avec 10 victoires, ils sont quasiment déjà en play-off, JC, donc c'est exceptionnel. Mais allez voir cette équipe-là. elle va vous chambouler. Moi, elle me chamboule. J'en ai vu hein, des milliers de matchs de basket. Leur style de jeu me chamboule. En fait.
Et c'est qui les gros joueurs dans cette équipe?
C'est un garçon qui s'appelle TJ Shorts. Il porte bien son nom parce qu'il fait 1m75, Philippe. qui est meneur de jeu gaucher, qui découvre cette compétition, qui est le patron, le taulier de cette équipe-là, qui est peut-être un des meilleurs joueurs de la compétition, un petit filou gaucher qui se faufile partout, qui est pas très adroit, mais qui va à une vitesse dingue et il fait péter. Et il y a Nadir Rifi qui est un international français, on l'appelle grosse touffe parce qu'il a une grosse touffe de cheveux, qui lui aussi n'a jamais eu peur de prendre un tir. Il est à 15-16 points de moyenne. C'est des garçons qui méritent d'être connus. Sincèrement, c'est une belle équipe de basket.
Ils sont un peu dans la surperformance en ce moment. Tu penses que ça peut,
ouais,
ça peut rester
ils sont dans le rouge là.
J'ai pensé à un moment donné à la surperformance, mais là ça fait 13 matchs en fait. Ouais. C'est long, c'est beaucoup 13 matchs.
Tu peux nous dire un mot sur l'entraîneur qui lui n'a pas non plus d'expérience, ce Brésilien.
C'est Thiago Splitter qui est champion NBA en 2014 avec les Spurs aux côtés
de l'expérience.
Il y a un garçon qui a tout gagné en Euroleague avant de partir en NBA. C'est sa première expérience en tant que coach titulaire. Il arrive à la suite d'un mec qui a monté cette équipe-là, qui est un coach finlandais, qui était parti en NBA, qui a été recruté par la NBA. Et lui, il a eu l'intelligence de dire, je vais rien changer. Enfin, très peu. Je vais garder la même structure que ce qui marchait la saison dernière. Et c'est un garçon qui découvre le basket de trop niveau avec succès. Et lui aussi, sa cote est en train de grimper en flèche. Maintenant, il va falloir aussi se poser la question, si tous ces garçons sont performants, il va falloir,
il va falloir augmenter les salaires.
Et les tueurs,
ouais.
Il va falloir essayer de trouver une petite plus-value intéressante.
Il va falloir passer à 25 millions de budget.
Merci beaucoup, Stéphane Brun, d'être venu nous voir.
Je reviendrai dans 3 semaines quand on fera un débat Paris Basketball, la dégringolade.
Non, on l'espère pas, surtout pas. Ce soir, il y a le match à 19h, hein, Betclic.
C'est le choc Paris Basketball Monaco.
Face à Monaco et en Euroleague.
On le voit où ça?
Normalement, c'est sur DAZN. Et DAZN a décidé, parce que c'est une énorme affiche, de le mettre en direct sur la chaîne YouTube de DAZN.
Donc en clair et gratuit.
Voilà, exactement.
Et bien, ça va faire beaucoup de bien. Et c'est aussi pour ça qu'on fait ce débat. Beaucoup de bien pour le basket de club français. C'est à 19h ce soir, Paris Basketball face à Monaco. Et vendredi soir prochain, autre journée d'Euroleague. Et là, c'est encore un choc franco-français entre l'ASVEL et le Paris Basketball. Bref, on en reparlera dans cette émission. Toutes les dernières informations sur rmc3.fr.
T'en parleras plus jamais.
Moi ?
Oui, tu respectes pas mon sport.
Non, tu vas parler de golf.
Tu vois, je parle même pas de golf alors que j'adore ça. Alors, je vais parler de basket, promis. Merci. Surtout si Paris cartonne encore comme ça. Allez, à tout de suite sur RMC. Nous allons accueillir deux championnes qui ont décidé d'arrêter leur carrière à l'issue des Jeux Olympiques de Paris 2024. Elles vont nous expliquer comment ça s'est passé. Et puis, évidemment, leurs ambitions pour la suite. C'est Marine Boyer et Charlotte Bonnet. À tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi. Les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
11h31, de retour dans les grandes gueules du sport en direct de l'Alpe d'Huez, l'hôtel Les Grandes Rousses, pour les derniers instants des RMC Sport Game. On est très heureux d'être avec vous ce matin avec Sarah Pitkowski, Christophe Cessieux, Philippe Saint-André. Sachez que si vous voulez provoquer une GG, c'est très simple, un seul mot d'ordre, vous composez le 32-16 et vous venez participer vous aussi à cette émission. Vous n'êtes pas d'accord sur un thème du jour, vous venez nous le dire. On a parlé de Kylian Mbappé, comme c'est étrange, Christophe. Mais oui, on en a parlé à 9h.
Ah, c'est
excellent.
Étonnant quand même.
Tu as été très bon, ouais. Sache-le. À 10h, nous avons parlé du Stade Toulousain, nous avons parlé de l'Olympique de Marseille, du Paris Basketball. Bref, vous voulez intervenir dans cette émission, vous composez le 32-16. Et dans le studio RMC ici à l'Alpe d'Huez, nous allons accueillir deux championnes qui ont décidé d'arrêter leur carrière. Une championne de natation, Charlotte Bonnet, et une championne de gymnastique, Marine Boyer. Bonjour à toutes les deux.
Bonjour.
Bonjour.
Vous allez bien ?
Très bien.
Ça se passe bien. C'est votre première édition des RMC Sport Games ?
Ouais.
Vous dites quoi ? Comment j'ai fait pour pourquoi j'ai attendu toute ma carrière avant de les faire ou pas du tout ?
Exactement. Non, mais c'est vrai qu'on, je pense qu'on était invités chaque année, mais pas avoir eu l'occasion de venir. Et on reviendra, c'était vraiment génial.
Mais forcément, Charlotte, quand on fait de la natation, c'est boulot, 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 boulot. Après une très longue carrière, merci d'être avec nous.
Charlotte, l'année dernière, je l'avais vue au micro d'or quand même.
C'est vrai.
Donc, c'était juste avant les Jeux quand même.
C'est vrai. Mais c'était un peu plus tard, dans la période. Donc...
Il est en train de régler ses comptes, il s'appelle Christophe Cessieux.
Elle
n'était
pas venue au RMC Sport Game. Mais,
je me rattraperai.
Et je rappelle notamment le palmarès de Charlotte Bonnet, médaillée de bronze en relais 4 fois 200 mètres aux Jeux Olympiques de Londres. C'était en 2012. Double médaillée de bronze en 2013-2019. Triple championne d'Europe en 2018. Les Jeux Olympiques de Paris 2024, c'était donc ta dernière compétition. Déjà, comment tu te sens là? Ça fait quelques mois après beaucoup d'années de compétition pour toi, beaucoup d'années d'entraînement. Comment tu te sens et comment tu as vécu justement les Jeux Olympiques de Paris 2024?
Écoutez, je me sens super bien. C'est vrai que c'est un arrêt que j'avais prévu. Donc, je ne m'arrête pas sur une blessure ou dû à une déception. C'est quelque chose que j'avais anticipé. Donc, je pense que ça facilite aussi grandement les choses. Ensuite, là, pour l'après-carrière, c'est... je profite depuis les Jeux, depuis le 4 août, depuis mon arrêt, de faire ce genre de sollicitations aussi, de venir au RMC, de profiter un petit peu. J'ai skié hier, alors que j'ai skié 3 ou 4 fois dans ma vie. Donc voilà, c'est des opportunités comme ça qui sont vraiment chouettes. Et ensuite, prendre du temps pour moi, c'est vraiment le mot d'ordre, parce que ma vie a été rythmée pendant 15 à 17 ans. Je me lève le matin, j'ai un rythme hyper, hyper difficile. Donc là, je prends un peu de temps.
Vous êtes toutes les deux très jeunes pour arrêter. Charlotte, t'as 29 ans, je crois.
Oui.
Donc pas trentenaire. Toi, t'es encore plus jeune, Marie. 24 ans.
Enfin, en gymnastique,
faites des sports, en fait, où tu peux pas prolonger trop longtemps. La gym, 24 ans, c'est presque un âge canonique, Marie, non?
Ouais, c'est vrai que je suis la mamie de l'équipe, on va dire.
Encore, c'est fou quand même. Hein.
Ouais, mais après, le corps, il change et physiquement, ça devient de plus en plus. Ouais. Donc il faut savoir écouter son corps.
Mais à quel âge vous commencez la compétition?
J'ai fait mes premiers jeux à 16 ans.
À 16 ans.
Et premier match en équipe de France à 11 ans.
Et toi, oui, à 11 ans. Jeune.
Attends, premier championnat de France à 11 ans.
Premier match en équipe de France.
Match en équipe de France.
Ouais.
Trois participations aux Jeux Olympiques pour Marine Boyer. Ah oui, il y a eu 2016, il y a eu 2020 et il y a donc eu 2024. La question que tout le monde se pose, alors en plus tu as raison, vous êtes particulièrement jeune, est-ce que ça fait du bien d'arrêter? Parce qu'on a souvent eu ces débats, et évidemment chaque sportif l'appréhende différemment, cette fin de carrière. Est-ce que vous aussi, est-ce que vous, aujourd'hui, vous êtes soulagé? Est-ce que ça fait du bien, Marine?
Bah c'est vrai que moi, les Jeux, ils n'ont pas été comme on l'espérait. Et je sais pas si je vais vraiment finir sur une compétition comme ça. Peut-être dire au revoir à la gymnastique et faire un gala ou une dernière compétition, histoire d'avoir
une sorte de jubilé, quelque chose qui diffère des Jeux qui ne se sont pas bien passés pour la gymnastique française.
Une bonne fin et
Finir sur un sourire plutôt que sur une
c'est la tristesse. Il y a eu beaucoup de déceptions, il y a eu beaucoup de larmes et on sait qu'on s'entraîne pour le plaisir et pour la compétition et là on l'a ppas eu, donc c'est vrai que j'aimerais bien finir sur une bonne note.
Charlotte, toi t'as pas fini sur une médaille, mais tu fais 6e, je crois, c'est ça?
Oui, c'est ça.
Donc tu considères comment ta dernière compétition, tes derniers Jeux dans cette piscine incroyable où il s'est passé tellement de choses avec cette équipe de France qui a cartonné? Là tu es parti sur un sourire même s'il n'y a pas eu de médaille.
Tout à fait. Moi franchement j'aurais pas pu rêver mieux d'arrêter en fait ma carrière sur ce Jeux Olympiques à Paris devant 15 000 ou 17 000 personnes qui scandaient notre nom et qui étaient tellement fiers. En fait, on n'avait pas le temps d'avoir de déception quand on sortait de notre course. On était ça switchait direct parce que les gens ils nous acclamaient. En fait, ils étaient juste contents de nous voir nager. Et moi, je suis arrivée aux Jeux Olympiques dans un état d'esprit assez clair. J'ai fait un petit burn-out de ma discipline, donc du crawl en 2022. Donc j'ai tout changé. Je me suis mise sur du catenage, sur de la brasse. C'est vraiment un changement de spécialité. Donc d'arriver au JO, de me qualifier déjà sur une spé nouvelle.
C'était comme un autre sport?
Franchement, ouais, c'est pas du tout. Tu travailles pas les mêmes muscles, les mêmes choses à l'entraînement. T'as fait 15 ans de spécialité, le crawl, toute ma vie j'ai fait ça. Et les deux dernières années, je change. Donc ça change tout.
Moi, j'ai une question pour les deux, parce que souvent, la fin de carrière, c'est une petite mort. Est-ce que vous l'avez préparée en amont? Est-ce que vous savez ce que vous allez faire? Ou là, vous partez complètement avec une nouvelle aventure sans avoir anticipé à ce que vous allez faire?
Bah alors, Marine Boyer. Vu que je suis assez jeune, entre guillemets.
Comme Christophe, hein, Christophe.
Et 24 ans,
Christophe, il est encore là.
Pareil, ouais.
Non, mais du coup, je sais que j'aimerais bien me relancer sur quelque chose, faire un autre sport, une reconversion. Donc,
ah oui.
Donc voilà, la question.
Alors, quel sport?
De savoir quel sport je faisais. Et du coup, je vais faire de la perche.
Du saut à la perche.
Ouais, voilà.
Et alors pourquoi avoir choisi ce sport? Parce que bon, de toute façon, il faut des.
Elle est à l'aise dans les airs, sur les appuis, etc. Je pense qu'il y a beaucoup de.
Il y a pas mal de similitudes. La championne olympique actuelle faisait de la gym à l'époque. Donc c'est vrai que ça donne envie. Et mon entraîneur est australienne et m'en avait parlé. Et c'est vrai que c'est resté sur le coin de ma tête. Et quand j'ai arrêté, je me suis dit pourquoi pas faire de la perche, sachant que je faisais 6 heures par jour d'entraînement et que je pouvais pas arrêter comme ça, mon corps voulait pas arrêter comme ça, et qu'il fallait que j'ai une activité physique.
Je lisais une interview de toi où tu parlais de la douleur, Marine. La douleur des gymnastes, bon, la douleur aussi, peut-être un peu moindre en natation, même si évidemment compter les petits carreaux au fond de la piscine, ça doit être un peu fatigant aussi.
C'est pas le même traumatisme.
Mais quand t'as souffert autant, est-ce que ton corps justement te demande encore de souffrir et d'aller encore te mesurer dans un autre truc où tu vas débuter de presque de zéro, quoi?
Oui, c'est vrai que je débute de zéro. Mon corps souffrait énormément depuis Tokyo. C'est vrai que j'avais l'interrogation de continuer ou pas. Et c'est vrai que le Covid a fait qu'il ne restait que 3 ans de préparation. Et je me suis lancée sur une autre Olympiade. Mais je me réveille tous les matins en boitant avec un mal de dos atroce. Non, mon corps ne redemande pas ça. Mais par contre, il a besoin de se muscler, enfin de rester musclé. Parce que s'il n'y a plus de sport derrière, bah, y a les douleurs qui reviennent. Donc voilà, avoir cette balance-là entre le repos et écouter son corps et avoir une bonne musculature.
Et pour être précis, faire de la perche aujourd'hui, c'est un amusement ou t'as envie de te dire aussi, bah pourquoi pas viser des championnats de France, des championnats d'Europe, des championnats du monde, pourquoi pas des Jeux Olympiques. Est-ce que évidemment, ça vient juste de commencer, donc c'est pas une question de te mettre la pression, c'est juste savoir dans quelle optique aujourd'hui tu es.
Bah alors c'est vrai que si je me lance dans un autre sport, ça serait dur de me lancer juste pour le plaisir, honnêtement.
Ça c'est après, les champions, hein, ça.
Après je verrai bien où j'en suis dans un an. Je me laisse quand même un an pour découvrir la discipline et voir où j'en suis et décider derrière qu'est-ce que je vais faire. Mais c'est vrai que c'est dur de se lancer pour du plaisir.
Mais est-ce que tu vas t'entraîner aussi à haute intensité, c'est-à-dire 3 à 4 heures par jour, tout en sachant que la perche c'est traumatisant aussi, hein?
Alors pour l'instant, je suis à 3 fois par semaine, donc c'est très calme.
Ah oui, déjà quand même.
Bah, ouais, histoire de tester si j'aime bien.
On peut te demander combien tu sautes, combien au bout. Non mais au bout de 3 semaines. Non mais si est-ce tu veux, t'as pas envie de le dire en plus.
Margot Chevrier.
Alors il y a même pas il y a même pas de hauteur parce que j'ai qu'un petit fil histoire de juste passer les pieds.
Ok. Non mais voilà, c'est vraiment le début. Non,
c'est
mais
la pour dire ça.
Non mais c'est aussi beaucoup d'humilité de repartir de zéro sur un autre sport, de tenter quelque chose. Et c'est vrai que quand tous les jeunes font de la gymnastique aujourd'hui, aller entre de la gymnastique, de la perche aujourd'hui, même quand on fait à l'école, tu sautes avec un fil et même une championne de gymnastique saute aussi avec un fil parce que tu débutes, donc c'est tout
compte,
à ton honneur.
On est complètement c'est tout nouveau pour nous quand on apprend à courir avec une perche. Nous on est tout le temps hyper contracté et là il faut être tout relâché, donc déjà juste ça c'est un peu compliqué. Et puis après il y a le butoir, il faut l'orientation des pieds, ça devrait aller, mais même le rebond, avoir la puissance dans les bras pour bloquer le mouvement et le mettre dans la perche. Ça, c'est des choses qu'on apprend en faisant les premiers cours. Mais c'est vrai que quand tu regardes des vidéos, t'as pas du tout l'impression d'avoir cette action-là à faire.
Et au final, cette technicité-là.
Il y a beaucoup de techniques au final à avoir. Et donc voilà.
Bon, pour avoir la médaille d'or, sache qu'aux Jeux Olympiques de Paris, c'était 4,90 m. Voilà,
j'ai vu déjà.
Ils mettent un peu l'impression quand même.
Ouais. Charlotte, moi j'ai peur comme Florent Manodou de lancer dans le hand derrière ou.
Non, c'est pas prévu.
Non, mais est-ce que tu pourrais entrevoir un autre sport ou franchement là, c'est pas du tout, on n'y est pas du tout.
Moi, je pense que j'ai, en tout cas, sur l'investissement, sur les sacrifices, etc. Alors, encore une fois, on parle souvent des sacrifices dans la natation parce que c'est vraiment très prenant. Mais encore une fois, moi, ma carrière, elle est incroyable et j'ai envie de retenir que le positif. Toutes les médailles que j'ai eues, les souvenirs et les personnes que j'ai rencontrées. Mais aujourd'hui, j'ai pas ce besoin, peut-être comme Marine, de me dire je veux continuer à m'entretenir, à faire du sport et à chercher des challenges. Parce que c'est peut-être ça aussi. Quand on est sportif de haut niveau, c'est ce que disait Marine, c'est fort ce qu'elle fait parce qu'elle repart de zéro. Quand t'as fait les Jeux et que t'as été un top mondial, tu repars de zéro sur notre discipline. Mais c'est tellement dur pour l'ego, c'est tellement dur pour nous. On est des compétiteurs, nous on n'a pas l'habitude de faire ça. On excelle dans un domaine et quand on excelle pas dans un autre domaine, c'est dur. Donc franchement, chapeau pour ce que tu fais.
Exactement.
J'ai une question pour vous deux, mesdames. Donc on est à septembre, octobre. On est à 4 mois depuis 4 mois. Ça y est, on passe à autre chose. Est-ce que quand vous vous endormez ou vous levez, vous avez les images de vos meilleurs souvenirs qui reviennent? Est-ce que ça vous nourrit encore aujourd'hui?
Ça t'arrive encore, Sarah?
Non, là, mais d'ailleurs, je m'en souviens. Tu sais, je suis comme toi. Je commence à perdre la mémoire. Mais est-ce que...
Quelle attaque gratuite.
Non, est-ce que... Voilà, est-ce qu'il y a encore... Enfin, est-ce que vous vous nourrissez de vos meilleurs souvenirs et s'il y en a un et que vous voulez nous partager, ce serait lequel?
Moi, oui, ça m'arrive, je pense, parce que la transition... Je suis en transition. Je ne veux pas dire que là, je ne pense plus natation. Je n'ai plus du tout envie de... Non, ça... Là, la semaine prochaine, il y a les championnats du monde en petit bassin. Donc, tous mes collègues, ils y vont et je vais suivre à fond. Donc je n'ai pas envie de couper avec ce milieu. Et forcément, j'ai des souvenirs qui me restent parce que... qui me resteront toute ma vie parce que ça m'a forgé. J'ai une médaille au JO à 17 ans. Donc, forcément, en fait, ça forge ton caractère. Tu mûris plus vite. Et ouais, toute ma vie, je m'en souviens. Et je me rappelle des fois et je me dis mais en fait c'est comme si c'était hier alors que c'était il y a 12 ans quoi. Ça passe vite.
Alors c'est vrai que moi j'ai besoin de prendre du recul par rapport à ce qui s'était passé au jeu, mais oui, le souvenir c'est la troisième place mondiale qu'on a faite l'année dernière, où ça faisait 73 ans qu'on n'a pas fait une médaille mondiale en équipe, et c'était un moment unique, complètement décalé.
Et d'ailleurs le fait que ça soit en équipe, parce que vous avez vos disciplines chacune individuelles, mais il y a aussi les relais et l'équipe. C'est différent, enfin, en tout cas le fait de le gagner en équipe, ça a une place particulière que quand c'est en individuel.
Moi c'est ce que je préfère. On dit souvent que la gym c'est individuel, mais moi je pense que la gym c'est en équipe, enfin, on perd ensemble, on gagne ensemble, et on l'a vu aussi là. Et ces moments ils sont magiques,
c'est gravé à vie,
tout le collectif, et c'est des heures d'entraînement en fait, c'est la reconnaissance de notre travail depuis des années, et ça fait tellement chaud au cœur.
Sarah, Philippe, vous vous souvenez là des premiers instants, des premiers mois où vous avez décidé d'arrêter, est-ce que ça revient en mémoire pour vous ou pas?
Oui, mais c'est pas terrible.
Pourquoi?
Moi j'ai dû, je crois que je me souviens, pendant 15 jours je n'ai fait que dormir.
Oui, mais t'étais contente d'arrêter. Tu t'es dit, il faut que j'arrête. T'as rangé la raquette,
oui,
c'était terminé.
Faut que t'arrêtes, mais c'est parce que c'est contraint et forcé. C'est parce que j'avais plus le niveau. Et pendant 15 jours, je n'ai fait que dormir. Une vraie loque, en fait. Véritablement. Et on parle de petite mort. Les termes sont violents, mais ils existent. Et puis, parfois, la petite mort, elle peut arriver en plus. Pas tout de suite, en fait. Parce qu'il y a l'excitation de se dire, oh, c'est chouette, j'ai plus besoin de me lever. Enfin, je peux prendre soin de moi différemment. Mais après, ça peut arriver en effet boomerang. En tout cas, c'est pas anodin, et même si on le dit, c'est pas anodin. Et est-ce que vous êtes accompagné dans votre dans le passage de l'autre côté, de l'autre côté, vous le faites tout seul ou vous êtes accompagné par je sais pas, soit vos proches, soit un psychologue, comment vous l'appréhendez ça d'ailleurs?
Ouais, moi je pense que j'ai toujours fait hyper attention dans ma carrière à être très bien entourée. Donc j'ai toujours une psychologue, même autour de moi, mes proches, mes amis, même qui ont arrêté, qui sont passés par des moments comme ça. Et c'est vrai ce que tu dis, je pense que la petite mort elle existe. Moi je me voile pas la face, je sais que ça va arriver. C'est juste qu'en fait cette transition est nécessaire pour se dire. Et je pense qu'on est obligé un peu de passer par là pour se dire qu'est-ce qu'on aime faire aussi aujourd'hui. Moi, la question qui me fait pas peur, mais que j'appréhende, c'est de me dire est-ce que je vais aimer quelque chose
aussi autant, fort,
aussi fort et aussi passionnément, parce que faire ça, là, avec le recul, je me dis, je me suis entraînée 15, 17 ans, 35 heures par semaine, enfin Marine c'est pareil, voire plus, et on a fait des sacrifices de malade, et on se dit, moi là on me dit tu refais juste une semaine comme t'as fait pendant 17 dernières années, c'est un rythme de fou, et moi c'est pour ça que pour éviter cette petite mort aussi, je break en janvier, enfin là dans 3 semaines, je pars en voyage pendant 6 mois et je me mets un peu ouvert.
C'est très intéressant de vous écouter, Marine Boyer, Charlotte Bonnet. On va poursuivre la discussion avec vous, on va marquer une courte pause et on revient dans quelques instants pour les grandes gueules du sport sur RMC en direct de l'Alpe d'Huez. A tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
11h50 de retour dans les grandes gueules du sport en direct de l'Alpe d'Huez avec ce matin Sarah Pitkowski, Philippe Saint-André, Christophe Cessieux et nos deux championnes qui ont donc décidé d'arrêter leur carrière, Marine Boyer pour la gymnastique, Charlotte Bonnet pour la natation, deux championnes qui sont avec nous durant ces RMC Sport Games à l'Alpe d'Huez. Sachez qu'à partir de midi, les paris RMC, nous serons avec toute la Dream Team pour notamment vous conseiller au mieux sur cette rencontre ce soir à 20h45 entre Saint-Étienne et l'Olympique de Marseille. Poursuivons la discussion avec vous, Marine Boyer, Charlotte Bonnet. Marine, on parlait avec Charlotte il y a quelques instants des envies que l'on a. Est-ce que toi aussi, même si tu nous l'as confié, tu reprends un autre sport, tu reprends la perche, est-ce que tu as aussi envie de voyager, tu as envie de faire des choses que tu n'as pas pu faire parce que tu as fait de la gymnastique depuis que tu es toute petite?
Alors oui, j'ai envie de faire d'autres choses, mais Mais pour l'instant, j'avais besoin de prendre du temps pour moi, écouter mon corps et ma tête et prendre du recul par rapport à ce qui s'était passé et accepter ce qui s'était passé aussi pour pouvoir tourner la page.
C'est fait aujourd'hui ou pas? Ou c'est pas encore accepté?
C'est en transition, parce que j'en parle ouvertement, alors qu'avant c'était très difficile d'en parler. Mais ça m'a fait du bien et oui, je suis suivie aussi psychologiquement avec une prépa mentale depuis que j'ai repris après Tokyo. Et en fait, elle m'a aidée à pouvoir accepter en fait que c'était que du sport et qu'on avait aussi une vie à côté et qu'il fallait passer par des échecs ou par des réussites pour avancer. Et j'arrive assez facilement à relativiser les choses. Donc, je pense que c'est important pour un sportif. Et c'est difficile aussi d'accepter une fin de carrière. Et moi, en vrai, je pense que j'ai tellement souffert en gym, honnêtement, physiquement et mentalement. Je me suis tellement donnée à fond et j'ai tellement été au bout de ce que je pouvais aller que je peux plus. En fait, je crois que j'aimerais bien faire une dernière compète, mais ouais, enfin, j'avais besoin d'arrêter en fait.
Mais là où on a du mal à se mettre, c'est même impossible de se mettre à votre place. C'est que nous, on l'a vu sur RMC, les émotions que l'on a pu recevoir de la part des champions.
Émotions positives ou négatives.
Non, mais l'émotion positive, bien sûr.
Elle a vécu des émotions négatives.
Mais nous, ce que nous retenons de ces jeux, ce sont les émotions positives pour le coup. Alors que ceux qui malheureusement n'ont pas réussi leur jeu, comme ça a été le cas pour les gymnastes. Quand on voit tout le monde qui fait la fête en disant « Mais vous vous souvenez, quelle nostalgie, les Jeux Olympiques, c'était vraiment génial !» Et en fait, tu peux pas le vivre. En fait, tu peux pas vivre cette même communion. Et ça doit être extrêmement dur à vivre.
Je sais pas. Vous avez ressenti l'amour parce que en fait, véritablement, dans les salles, enfin, c'était juste tellement extraordinaire.
Ouais, bah, natation, sans doute. Mais est-ce que
mais en gym aussi, il y a une
ambiance extraordinaire à Bercy.
Vous l'avez ressenti quand même.
Il y a énormément de gens qui nous ont envoyé des messages pour dire qu'ils étaient désolés par rapport à ce qui se vivait, ce qu'on avait vécu. Mais c'est comme ça. Enfin, on peut pas retourner en arrière. Et malheureusement, on a fait ce qu'on avait fait. Enfin, ce qu'on a fait là et c'est comme ça en fait, ça a pété à ce moment-là et en fait ça a reçu, tous les problèmes ont ressurgi à ce moment-là malheureusement et nous on est impuissants face à ça parce qu'au final on a donné le meilleur de nous même si c'était merdique quoi.
C'était pas suffisant.
Non mais
quoi.
Surtout Marine, c'est qu'il y avait beaucoup d'espoir parce que vous aviez fait une médaille de bronze et d'être pas qualifié en finale, c'est ça. Mais après, les Jeux Olympiques ont été exceptionnels. Mais quand tu es un sportif de haut niveau...
Mais tu ne veux pas juste participer.
Voilà,
ça ne suffit pas.
Comment vous les avez vécus, justement, vous? Parce que nous, on était dans le monde extérieur. C'est-à-dire qu'on voyait les spectateurs, on voyait les gens dans Paris qui faisaient la fête, les policiers qui souriaient, qui renseignaient les gens. C'était un truc complètement hallucinant dans Paris. Est-ce que vous l'avez vécu? Est-ce que vous vous êtes rendu compte de ce qui se passait? Ou vous étiez vraiment dans votre bulle pendant les...
On est quand même dans une bulle, quand même. Quand on est au JO. Après, on a eu des retours, je pense, de nos familles et de moi, mes amis qui m'ont dit mais c'était génial l'organisation. Dès qu'on était un peu égaré ou perdu, enfin, on était aiguillé direct. Les gens étaient agréables. Ça, c'était top. Donc non, on l'a vécu. Mais pour rebondir à ce que vous disiez tout à l'heure, on a ressenti beaucoup d'amour, c'est sûr, autour, que ce soit des sportifs même qui venaient nous parler ou nous dire bah voilà qu'ils avaient vu une déception, etc. Mais quand t'es déçu de ta performance, tu peux avoir tout l'amour autour de toi. Oui. T'es là à un moment de ta carrière où t'as travaillé des fois toute une vie, 4 ans, 5 ans, 8 ans, mais t'échoues à ce moment-là, ben en fait, t'as juste besoin de te renfermer sur toi-même et tu peux avoir tout l'amour du monde autour de toi, ça suffit pas.
C'est la grande différence entre les acteurs et les spectateurs. Et les acteurs, non mais c'est vrai, ils ne peuvent pas ressentir la même chose que les spectateurs parce que vous, vous êtes dedans et vous, c'est votre performance qui va dicter aussi votre joie de vivre ensuite et le fait que vous puissiez être apaisé ou non. Justement, quand on parle d'apaisé, on peut vous souhaiter quoi pour la suite, Marine Boyer?
Oh, que du meilleur.
5 mètres à la perche.
Prendre du plaisir et peut-être faire une première compétition en perche, je dirais, l'année prochaine, on verra bien, mais pas se prendre la tête et que du plaisir.
Bon, on va suivre ça en tout cas.
Et Charlotte, va adopter un kangourou.
C'est sûr, prendre du plaisir aussi, avoir cette bouffée d'oxygène ailleurs. Et moi, j'aimerais beaucoup commenter la natation, donc à bon entendeur.
Ah, il faut que tu quittes la place de ton agente.
On peut travailler en duo. Mais je suivrai toujours en tout cas.
Vous travaillez avec Sophie Camoun depuis.
Bien sûr, depuis que j'adore, donc je lui fais un gros bisou. Mais je sais, elle commente.
Non, mais c'est bien de le savoir. savoir. Il faut aussi se dévoiler ses intentions. Et voilà, comme ça, on le sait. Consultante natation, eh bien, sachez que Charlotte Bonnet est désormais disponible pour vous éclairer sur sa discipline. Merci Charlotte Bonnet, merci Marine Boyer.
Et bravo pour votre carrière.
Été avec nous dans les grandes gueules du sport ce matin. Merci Christophe, merci Sarah, merci Philippe. Maintenant, il faut redescendre, ok, de cette belle montagne de l'Alpe d'Huez. Retour à Paris. Nous, on se retrouve dans quelques instants pour les Paris RMC avec toute la Dream Team. On va vous parler de Saint-Étienne-Marseille. C'est ce soir à 20h45. Allez, à tout de suite. Et je remercie évidemment toutes les équipes techniques autour de Dimitri Grossi. Merci à notre réalisateur ce matin, Quentin Barber, comme on l'appelle. On l'appelle comme ça, Barber, à l'américaine. Mais également à notre producteur, Maxime Abolin. On vous embrasse et on vous dit à tout de suite pour les Paris RMC. À tout de suite.